bonjour et bienvenue à notre émission Au rythme de l'Église de ce dimanche. Ici Sœur Edna Thomas. J'accueille pour vous à notre émission d'aujourd'hui le Père Yolan Ouellette, qui est un oblat de Marie Immaculée, qui est directeur national des œuvres pontificales missionnaires du secteur francophone. Alors bonjour Yolan et bienvenue bonjour. À notre émission.
Merci.
Alors aujourd'hui, ce n'est pas pour nous parler des œuvres pontificales missionnaires que nous accueillons Yolan à notre émission, mais bien pour nous parler de Saint-Joseph que nous célébrerons cette semaine, jeudi, le 19 mars, et ce, dans l'Église universelle. Alors Yolan, te connaissant un peu, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire à Saint-Joseph et que Saint-Joseph a une place de choix dans ta vie. Alors, je te laisse la parole et parle-nous de Saint-Joseph que nous aimons tant au diocèse d'Edmundston, à Saint-Basile et aussi dans l'Église universelle.
Hey, c'est avec plaisir de vous adresser la parole à toute la famille diocésaine aussi. Nous parler de Saint-Joseph, il y a bien des façons de pouvoir en parler. La neuvaine à chaque année à l'oratoire ici nous fait redécouvrir le grand personnage. Mais il faut le situer justement comme un grand personnage au point de départ, je dirais que c'est cet homme de foi dans la lignée des grands croyants que nous reconnaissons dans notre tradition judéo-chrétienne. Donc les titres qu'on lui reconnaît, qu'on lui donne, c'est « noble descendant de David », rien de moins. « Époux de la Mère de Dieu », c'est ainsi qu'il est fêté le 19 mars prochain. « Père de Jésus, Fils de Dieu », ça c'est les grands titres qu'on peut en résumé dire à son sujet. Et ce qui est étonnant, c'est que sa fête, puis le fameux mois dédié à Saint-Joseph, ça a pris du temps. Ce n'est qu'en 1480, avec le pape Sixte IV, qui sera reconnu comme ça. Il y aura sa fête au calendrier, comme on dit, puis son mois sera reconnu. Puis ça a pris du temps aussi, imaginez-vous, pour qu'il soit reconnu comme patron universel de toute l'Église par Pie IX en 1847. C'est quelque chose, hein, n'est-ce pas? Maintenant, ici au Canada, je veux en parler parce que plusieurs communautés religieuses l'ont choisi comme modèle, oui, de vie consacrée, comme inspiration aussi, et l'ont proposé comme vénération, d'autant plus qu'il est notre patron de l'Église au Canada depuis des années, avant 1847 d'ailleurs, avec Grégoire VI, il avait été reconnu patron du Canada, notre cher Joseph. Donc, les hospitalières de Saint-Joseph, rien de moins, apporteront en terre canadienne et acadienne cette dévotion, et je dirais dès leurs premières années, quand même, de la fondation de Montréal, rien de moins, en 1659, on voit cette arrivée de cette dévotion. Ça, c'est pour résumer un peu des origines dont nous sommes fiers. Ça nous marque encore aujourd'hui. Bien sûr, il y a des paroisses dédiées à Saint-Joseph, il y a des nombreuses, il y a des chapelles. Il y a des petits sanctuaires, ça a commencé par être un petit oratoire, n'est-ce pas? Et on est quand même fiers d'avoir à Montréal maintenant, grâce au bienheureux frère André, ou Saint-Frère André, pardon. On a le plus grand sanctuaire dédié à Saint-Joseph au monde, l'oratoire. Et c'est bizarre parce que l'oratoire veut dire toute petite, petite chapelle, hein, mais c'est loin d'être une petite, hein, c'est toute une basilique maintenant sur le Mont-Royal. Soyons en fiers. Je dirais ceci aussi, il est un, bien sûr, modèle de vie consacré depuis longtemps. Donc, beaucoup d'autres congrégations, dont en plus des hospitalières de Saint-Joseph, portent ce nom. Hein. J'en connais beaucoup ici au Québec et en Ontario, dans l'Ouest canadien. Mais au-delà de ça, on le reconnaît aussi comme patron des travailleurs, des chômeurs puis des sans-emploi aussi. Il y a des manifestations à Montréal pour meilleurs emplois puis pour les chômeurs. Ça se ramasse tout à l'oratoire, ça, en foule immense, tu sais. Ce que je remarque beaucoup, je vais parler de mon expérience de Montréal, c'est les immigrants. Ce phénomène mondial de l'immigration quand même, avec toutes les guerres sur la planète Terre. Saint-Joseph inspire aussi de nombreux réfugiés et immigrants à se confier à lui pour que se règle, je dirais, leur statut et leur nouvelle citoyenneté, là, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. Fait que c'est tout un patron des immigrants et des réfugiés. Il a vécu cette situation avec Jésus dès qu'il est arrivé sur Terre. Il a été... Il a fui en Égypte. Moi, j'ai été marqué par les groupes ethniques aussi au sanctuaire Notre-Dame du Cap dans leur dévotion, pas juste mariale, mais envers Saint-Joseph, parce que je visitais le paroisse, puis chez nous, ils font leurs prières dans nos sanctuaires. Le culte à Saint-Joseph demeure très populaire, très, très, très connu, puis c'est là qu'on voit un peu l'impact qu'il a comme patron de l'Église universelle, gardien de la Sainte Famille, patron des travailleurs aussi, modèle de vie intérieure. Et une autre expression que j'utilise, que j'ai entendue à Saint-Basile, là, d'où je viens, rien de moins, ça me faisait toujours bizarre. Patron de la bonne mort, imaginez-vous. Mais il faut comprendre derrière ça, tu sais, je voyais mes tantes prier ça à la fin du chapelet, là, prions pour une bonne mort, Saint-Joseph. Il faut comprendre la discrète mort de Joseph dans l'Évangile. On ne sait pas trop quand, mais il disparaît un peu du décor du Nouveau Testament. Et puis, on a souvent des peintures qui nous montrent celui que Jésus prend par la main pour le passage, n'est-ce pas, de la mort. C'est que, voilà, le culte à Saint-Joseph, je dirais qu'au-delà de tout ça, il faut le dire quand même, si on lit ça dans l'Évangile, c'est un culte qui peut parler aux pères de famille, qui peut parler aux fiancés, aux époux, aux amoureux, aux familles, évidemment, aux parents adoptifs et aux familles reconstituées. Comme vous voyez, c'est un culte qui est assez large. Hein? Comme ça que Paul VI le déclara protecteur de la famille en 1971. C'est quelque chose. Voilà ce que je dirais là, de culte à Saint-Joseph. Est-ce que tu veux que je parle un peu au plan évangélique un point?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ben, c'est ça, je dirais que Joseph pourra toujours interpeller l'ensemble des chrétiens dans le monde entier, et des gens de bonne volonté aussi, de toute religion. Moi, je l'avais présenté à l'Oratoire Saint-Joseph dans une neuvaine. Là. Joseph comme reflet, icône, c'était le thème, là, icône de l'amour de Dieu le Père.
Mmh,
reflet de cet amour. Oui, ça résume beaucoup, ce qu'on pourrait dire beaucoup, du cœur de Joseph. Là. Il a été appelé à être cette icône de l'amour de Dieu pour son épouse, pour Marie, hein, et pour son enfant. Imaginez-vous l'impact qu'il a eu sur Jésus par sa bonté au bon Saint-Joseph, comme on le chante dans les cantiques. T'sais. Puis par l'amour qu'il y a eu dans son cœur, qu'on peut vraiment discerner dans les premières pages du Nouveau Testament. T'sais. Il y a de la bonté extraordinaire. T'sais. Alors c'est ça, les gens qui rentrent dans sa vie aussi, dans ses déplacements à Bethléem jusqu'en Égypte. Donc, le bon et le juste Joseph, il dégage beaucoup, je dirais, cet amour de Dieu qui est bon, qui est juste. C'est que, et l'icône aussi, modèle du Père. Je conclurai là-dessus. La paternité de Joseph sort vraiment de l'ordinaire, il faut le dire. Ça nous révèle quelque chose du Père éternel. Combien le Père éternel, il nous aime, nous accueille, accueille tous ses enfants, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur condition. Un accueil, donc, extraordinaire, inconditionnel. Cet amour, donc, dans le cœur de Joseph, nous montre le grand désir de Dieu de rassembler dans une seule fraternité, dans une grande famille, toute l'humanité, aux multiples visages. Ça, c'est le rêve de Dieu. C'est vraiment ça, le rêve de Dieu dans le Nouveau Testament. Rassembler le peuple de Dieu, tous ses enfants, dans une grande famille, une grande fraternité. Puis Joseph, en devenant père, il a ouvert son cœur à un amour d'accueil inconditionnel. Puis ça, c'est dans ce sens-là que je trouve beau de résumer un peu ce modèle qu'il est aussi de la bonté du Père éternel.
Alors, merci infiniment, Yolan, d'avoir accepté notre invitation. Alors, malheureusement, le temps à notre disposition est presque déjà écoulé. Alors, je veux te souhaiter aussi une bonne fête de Saint-Joseph pour le 19 mars, mais aussi
merci.
Une bonne fête à toi qui célébrera ton anniversaire le 20, hein?
Le lendemain.
Le 20 mars. Et alors, bonne fête à l'avance, Yolan.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup et bonne fête à tous.
Merci. Alors, quelques annonces. Le lundi, mardi et mercredi, le 16, 17 et 18 mars, il y aura un triduum préparatoire à la fête de Saint-Joseph à la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile. Alors, là, ça va se passer le matin à 9h30. Alors, trois prêtres différents nous accueilleront pour la messe et la prédication à 9h30. Alors, lundi, le 16, ce sera le Père Crépin, le curé de Saint-Quentin. Le mardi, le 17 mars, le Père Laurent Nindereye, qui est de l'unité pastorale Saint-Jacques-Saint-Joseph, bon pasteur, nous accompagnera. Et mercredi, le 18 mars, on sera accueilli par le Père Paul Paradis, qui est prêtre collaborateur à l'unité pastorale Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui regroupe les quatre paroisses de la région de Grand-Sceau. Et enfin, comme il se doit, le 19 mars à 9h30, toujours, la messe solennelle de la fête de Saint-Joseph sera présidée par notre évêque, Mgr Claude Champagne, à l'Hôtel Dieu de Saint-Basile à la Chapelle. Alors, soyez tous et toutes les bienvenus à vous joindre aux religieuses et à leurs associés qui sont cette année les personnes qui ont organisé ce Triduum. Alors, bienvenue aussi à vous joindre à tous les résidents et résidentes de l'Hôtel Dieu pour célébrer notre grand et bon Saint-Joseph. Alors, merci d'avoir été à notre écoute et bonne semaine à tous et à toutes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission au rythme de l'Église. Alors, bonne semaine à tous.